pour toutes les générations, conçu et réalisé par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne.
En cette deuxième quinzaine de mai, l'équipe Génération, toujours fidèle au poste, vous a concocté, sous la maîtrise de Margaret et Christiane, cette 19e émission, pleine de mystères et de distractions. Alex, Josie, Michel et Christiane nous font valser avec le beau Léon. Annie et Bertrand nous emmènent sur les toits de Notre-Dame de Paris. Christiane et Colette nous font frissonner avec des créatures surnaturelles. Pas de rubrique santé cette fois-ci, mais Alex nous fait perdre la tête. Et Margaret fait travailler la sienne avec amusement. Bonne découverte et bonne écoute!
Nous poursuivons notre visite de Paris, commencée dans la dernière émission. Quel meilleur symbole musical de cette ville que l'accordéon ! Écoutons l'accordéon désaccordé, revisité par l'équipe Génération, avec bien sûr l'aide de Jacques Higelin.
L'accordéon désaccordé du bouléon. S'accorde au diapason des tourbillons des corps et des cœurs amoureux. Et le cordon, langoureux de leur mélancolie, relie mon vague à l'âme au charme disparu des rues du vieux Paris.
Où sont tous les camelots, les princes de la gouaille, les grands bonimenteurs, les champions du bagou, les tarzans, la houppette brillantinée de frais, qu'accrochaient leurs bijoux de pacotille au cou des midinettes en bigoudi?
Et tous les ouistiti des joueurs de barbarie qui tiraient sur leurs chaînes, jongleurs et funambules qui volaient dans les plumes des chanteuses zaranguennes, Fréhel et la Damia, charmeuses de cobra qui vous saignaient le cœur avec les trémolos du malheur dans la voix.
Les accords de l'accordéon, désaccordé du boléon, me collent à fleur de peau des nappes de frissons, des vagues de langueur, le cordon langoureux de leur mélancolie. Marie mon vague à l'âme à celui de Paname qu'on aime et qu'on oublie.
Envoler les bougnats, café, bois et charbon, les flambeurs de Java soignant leur peine de cœur au martini piquant, les sifflets des poulbeaux qui fusaient de la place, quand les filles à Marlou valsaient la chaloupée l'été à la terrasse des caboulots.
Où sont passés les fous rires et tous les mots doux des amants de la Seine qui traînaient leur bonheur des quais de l'île Saint-Louis à Notre-Dame en fleurs? Dans quel nid au perché du paradis des photographes se cachent les petits moineaux du Paris de Douaneau chantés par la môme Piaf?
Les accords de l'accordéon désaccordé du boléon me fuient la fleur de peau des nappes de langueur, des vagues de frissons, et dans ce vieux décor, illuminé par les tubes au néon, je noie mon mal d'amour dans les bras du Paname, encerclé par les tours.
Qu'est-ce qu'ils t'ont pas fait, mon Paris, ma canaille, et tous ces démolisseurs qui ont un pavé dans le cœur et des semelles en béton? Par où s'est envolé l'esprit des ritournelles s'évadant des ruelles et du pavé des cours sous l'aile des hirondelles du faubourg?
Ça a l'air d'un nouveau riche qui a honte de son passé et qui jette la photo déchirée de son âme par-dessus les périphes.
Je t'abandonne aux touristes,
au branleur de Tour Eiffel, et je retourne en banlieue demander au bon Dieu de faire la courte échelle aux pianistes à bretelles, souriant aux étoiles que la boule de cristal renvoie du haut du ciel sur les petits amoureux qui tournent autour des balles.
Cristal envoie du haut du ciel sur les petits amoureux, au pianiste à bretelles, souriant aux étoiles, que la boule en cristal renvoie du haut du ciel sur les petits amoureux qui tournent autour des pales.
L'ayant vu sur scène, je savais que Jacques Higelin était un musicien hors pair. Mais à l'écoute de la chanson « L'accordéon désaccordé », il m'est apparu comme un véritable poète. Les mots choisis chantent tant ensemble que la musique de leur lecture suffit à décrire ce superbe tableau perdu de Paris. Tant et si bien qu'il me plaît de croire que, quelqu'un ne parlant pas notre langue, à l'écoute de cette chanson, pourrait en comprendre tout le sens. Après la musique, la littérature. Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre de Victor Hugo. Annie. Sur quel personnage de ce roman souhaites-tu mettre la lumière ?
On ne peut pas dire que la littérature ne les aime pas. Elles, ce sont les héroïnes de nos romans favoris. Elles tiennent souvent la première place dans les plus beaux livres de notre bibliothèque. Scarlett O'Hara, Anna Karénine, Jane Eyre, Cosette. Quand nous évoquons Paris et ses monuments, nous pensons à Notre-Dame de Paris et l'héroïne qui nous vient à l'esprit, c'est naturellement Esmeralda. Héroïne mythique, maintes fois représentée au théâtre, à l'opéra, au cinéma. C'est aussi un personnage culte pour les enfants, depuis le film de Walt Disney, magnifiée par la célèbre comédie musicale. Esmeralda est avec Carmen la gitane la plus célèbre de la littérature.
Autour d'elle, tous les regards fixes, toutes les bouches ouvertes. En effet, tandis qu'elle dansait ainsi au bourdonnement du tambour de basque, que ses deux bras ronds et purs élevés au-dessus de sa tête, mince, frêle et vive comme une guêpe, avec son corsage d'or sans plis, sa robe bariolée qui dansait, avec ses épaules nues, ses jambes fines que sa jupe découvrait par moments, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme, c'était une surnaturelle créature.
Elle est admirée, mais aussi crainte. Sur le parvis de Notre-Dame, la réputation d'Esmeralda la précède. La jeune fille serait l'incarnation du mal, séduirait les hommes, jetterait des sorts aux animaux, enlèverait les enfants, légende inventée de toutes pièces. Quasimodo, le bossu, est amoureux d'elle, d'un amour sans retour. Il tuera pour elle, avant de se laisser mourir à ses côtés. Triste sort pour notre bohémienne, capturée par le terrible Frollo, assassin de l'homme qu'elle aime, le capitaine Phoebus. Victor Hugo en fait un personnage inflexible, refusant les avances d'un être ignoble. Esmeralda se sait condamnée à mort. Une courte vie follement romantique pour cette victime de la fatalité. L'héroïne n'aura que 16 ans lorsqu'elle sera pendue pour un acte qu'elle n'a pas commis. Quelques mots sur l'œuvre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Au XIXe siècle, les Français lisent beaucoup, en particulier les romans du Moyen-Âge. Ce qui plaît, ce sont les romans de cape et d'épée. L'auteur, particulièrement en vogue, c'est l'Écossais Sir Walter Scott. Et Honoré de Balzac et Victor Hugo en sont des grands fans. Ça tombe bien, leur éditeur Charles Gosselin a bien envie de surfer sur la vague. En 1828, il demande d'écrire des romans à la Walter Scott. Ainsi, Balzac boucle les Chouans en 1829. Victor Hugo, lui, a du mal à terminer son Notre-Dame de Paris dans les temps. Les échanges entre l'auteur pressé et l'éditeur impatient se terminent même aux tribunaux. Le roman paraît en 1831, devenant un classique français.
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Ô Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda.
Il est grand temps de quitter Paris, mais pas Victor Hugo, dont Christiane et Colette nous présentent un poème très particulier.
Nous avons déjà beaucoup parlé d'écriture sous toutes ses formes, de ses bienfaits sur la santé jusqu'à la fabrication des crayons. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la structure très particulière d'un poème de Victor Hugo que j'aime beaucoup, les jeans. Alors, les jeans, je ne vous parle pas des pantalons, je vous parle des jeans écrits D-J-I-N-N, qui sont des créatures de la mythologie arabe. Ce poème de Victor Hugo est construit sous forme de crescendo-décrescendo. 15 strophes au nombre de syllabes variables, augmentant de 2 jusqu'à 10 pour revenir à 2 en fin de poème. Et pourquoi cette forme si particulière? Eh bien, pour faire écho au récit du fracas provoqué par le passage des djinns autour de la maison du narrateur. Ça donne une vie très particulière au texte. On a vraiment l'impression que ces cavaliers vont nous balayer sur leur passage. On les sent arriver, nous frôler dans la fureur, puis disparaître au loin. En accompagnement, un morceau de Gabriel Fauré qui a tenté de reproduire cette montée et descente de tension en musique. Murs, villes et ports, asile de mort, mer grise où brise la brise tout d'or. Dans la plaine naît un bruit, c'est l'haleine de la nuit, elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit.
La voix plus haute semble un grelot, d'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence sur un pied danse au bout d'un flot.
La rumeur approche, l'écho la redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule et tantôt grandit.
Dieu, la voix sépulcrale des djinns, quel bruit ils font! Fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà s'éteint ma lampe, et l'ombre de la rampe, qui le long du mur rampe, monte jusqu'au plafond.
C'est l'essaim des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc.
Ils sont tout prêts. Tenons fermée cette salle où nous les narguons. Quel bruit dehors! Hideuses armées de vampires et de dragons. La poutre du toit décellée ploie ainsi qu'une herbe mouillée. Et la vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gonds.
Cri de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure, l'horrible essaim poussé par l'Aquilon sans doute, au ciel s'abat sur ma demeure. Le mur fléchit sous le noir bataillon, la maison crie et chancelle penchée, et l'on dirait que du sol arraché, ainsi qu'il chasse une feuille séchée, le vent la roule avec leur tourbillon. Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs. Fais que sur ces portes fidèles meure leur souffle d'étincelle et qu'en vain l'ongle de leurs ailes grince et crie à ces vitraux noirs.
Ils sont passés. Leur cohorte s'envole et fuit, et leurs pieds cessent de battre ma porte de leurs coups multipliés. L'air est plein d'un bruit de chaînes, et dans les forêts prochaines frissonnent tous les grands chênes sous leur vol de feu plié. De leurs ailes lointaines le battement décroît. Si confus dans les plaines, si faible, que l'on croit ouïr la sauterelle crier d'une voix grêle, ou pétiller la grêle sur le plomb d'un vieux toit.
D'étranges syllabes nous viennent encore, ainsi des arabes quand sonne le cor, un chant sur la grève par instant s'élève, et l'enfant qui rêve fait des rêves d'or. Les djinns funèbres, fils du trépas, dans les ténèbres pressent leurs pas, leur essaim gronde, ainsi profonde murmure une onde qu'on ne voit pas.
Ce bruit vague qui s'endort, c'est la vague sur le bord, c'est la plainte presque éteinte d'une sainte pour un mort.
On doute, la nuit, j'écoute.
Tout fuit, tout passe, l'espace
efface
le bruit.
Quand on veut faire trop de choses en même temps, ça peut déraper. Alex, toi qui es très actif, raconte-nous ta journée.
Je décide de laver ma voiture. Alors que je vais vers le garage, je remarque qu'il y a du courrier sur la table de l'entrée. Je décide de regarder le courrier avant de laver la voiture. Je pose mes clés de voiture sur la table, je mets dans la corbeille à papier tout le courrier publicitaire et je remarque que la corbeille est pleine. Alors, je décide de reposer les factures sur la table et de vider d'abord la corbeille. Mais alors, Je me dis que puisque je vais être à côté de la boîte aux lettres, quand je vais aller sortir la poubelle, autant préparer d'abord le règlement des factures. Je prends mon carnet de chèques sur la table. Ah, je vois qu'il ne me reste qu'un seul chèque. Mon autre chéquier est dans mon bureau. Donc j'y vais et je trouve sur le bureau la boîte de coca que j'ai commencé de boire. Je vais chercher mon chéquier, mais avant tout, il faut que j'enlève ce coca-là parce qu'il risque de se renverser accidentellement. Je remarque qu'il commence à devenir tiède, je décide donc de le mettre au frigo pour le rafraîchir. Alors que je me dirige vers la cuisine avec le coca, le vase sur le comptoir me saute aux yeux. Les fleurs ont besoin d'eau. Je pose le coca sur le comptoir et je découvre mes lunettes pour lire, lunettes que je cherchais depuis le matin. Je me dis que je ferais mieux de les remettre dans mon bureau, mais avant, je vais donner de l'eau aux fleurs. Je repose les lunettes sur le comptoir, je remplis un pichet d'eau et soudain, j'aperçois la télécommande. Quelqu'un l'a laissée sur la table de la cuisine. Je me dis que ce soir, quand on va vouloir regarder la télé, je vais la chercher partout et je ne me souviendrai plus qu'elle est dans la cuisine. Je décide donc de la remettre dans le salon. Où est sa place ? Mais avant, je vais donner de l'eau aux fleurs. Je donne de l'eau aux fleurs, mais j'en renverse la plus grande partie sur le sol. Alors, je remets la télécommande sur la table, je vais chercher un chiffon et je nettoie les dégâts. Ensuite, je reviens dans l'entrée en essayant de me souvenir de ce que je voulais faire. À la fin de la journée, la voiture n'est pas lavée, les factures ne sont pas payées. Il y a un coca tiède sur le comptoir de la cuisine. Les fleurs n'ont pas assez d'eau. Je n'ai pas mon nouveau chéquier. Je ne trouve pas la télécommande. Je ne sais pas où sont mes lunettes. Et je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait des clés de voiture. Et puis, quand je me rends compte que rien n'a été fait aujourd'hui, je n'y comprends rien. Parce que je n'ai pas arrêté de la journée. Et que je suis complètement crevé.
8h du mat, le réveil vient de sonner. Eh eh, c'était l'éclate. À 6h je me suis couché. Eh eh, danser toute la nuit. Je les ai toutes allumées, baby. 8h du mat, mate-moi, je suis tout frais, baby. On me dit que j'enchaîne, que jamais je me stoppe, jamais je ne m'arrête. Trouve-moi l'antidote, je me lève aux aurores. À savoir si je dors, j'aurai tout le temps de dormir quand je serai mort. Je ne suis pas juste, je ne suis pas faux, je ne suis pas juste. Je ne suis pas trop, je ne suis pas super, je ne suis pas hyper, je suis plutôt super, super hardy. Super, super hardy. Super, super hardy. Désactive-moi, débranche-moi. Je l'ai signé, et quand je m'assois, je me sens obligé de bouger 800 km en une journée pour aller chanter mon secteur professionnel en super hyper activité. On me dit que j'enchaîne, que jamais je me stoppe, jamais je ne m'arrête. Trouve-moi l'antidote, je me lève aux aurores. À savoir si je dors, j'aurai tout le temps de dormir quand je serai mort. Je ne suis pas juste, je ne suis pas faux, je ne suis pas juste. Je ne suis pas trop, je ne suis pas super, je ne suis pas hyper, je suis plutôt super, hyper actif. Super, hyper actif.
Margaret, toi, tu préfères jouer plutôt que laver la voiture, payer les factures ou remettre de l'eau aux fleurs. Et il me semble même que tu as trouvé un divertissement encore plus passionnant que la belote.
Il y a quelques années, on recevait du monde. Anne propose une partie de belote. Je ne veux pas jouer, je ne connais rien au jeu. Allez, Margaret, viens, nous ne sommes que trois et il faut une quatrième personne. Non, jamais de la vie, je réponds. Anne insiste et je capitule. Je l'avais prévenue que je n'y connaissais rien, mais ça ne l'a pas empêchée de m'incendier parce que je jouais mal. Mauvais souvenir, Anne. Et si tu écoutes, je n'ai jamais joué depuis et je ne jouerai plus jamais à l'avenir. Jamais. Par contre, depuis quelques mois, j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, le puzzle. Grâce à une suggestion d'une de mes sœurs, j'ai repris cette activité qui me passionnait tant quand j'étais petite. Aujourd'hui, mon mari trouve cette activité plutôt bien au début, mais je pense qu'il s'en lasse au bout de quelques jours. Ça devient une obsession. Donc, pour préserver mon mariage, je me suis donné quelques règles strictes. Il me faut normalement une petite semaine pour faire un puzzle de 1000 pièces, mais du matin au soir, au repas et jusqu'à 18 heures. Et là, j'arrête pour la journée. Pas de puzzle le week-end non plus. Donc, j'ai intérêt à le finir le vendredi. J'en ai fait plusieurs, mais bizarrement, mon préféré, c'est Terrasse du café le soir de Van Gogh. Il était compliqué. Les coups de brosse ne m'aidaient pas beaucoup, mais je me suis régalée et j'étais contente de mon exploit. Bientôt, je commencerai une scène de Venise et j'attends la livraison de ma prochaine commande. Puisque nous arrivons à la fin de notre émission, je vous propose un petit voyage au Mexique pour écouter deux guitaristes fabuleux, Rodrigo et Gabriela, qui jouent Tamacun. Thank you.
Le projet Génération, c'était un spectacle, et ça le redeviendra. Et c'est aujourd'hui une émission radio.
Et toujours un rendez-vous artistique et d'expression réalisé dans le cadre de l'association Artis. Il est financé par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Conférence des financeurs, en partenariat avec Radio de la Save, bien sûr. Nous invitons nos 60 ans et plus à rejoindre l'aventure de Génération.